Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission Polar, qui est toujours la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Au sommaire de l'émission, eh bien, quelques livres que nous avons beaucoup appréciés en ce temps très doux d'automne. Et puis, la visite pour la dernière fois cette année, mais on le retrouvera l'année prochaine, de Jean-Marc Laherrer, notre Toulousain féru de polar, qui va nous parler. Eh bien, c'est une surprise, je ne sais pas de qui. Voilà, donc vous le saurez dans moins de 10 minutes. Donc pour l'instant, moi je vais vous parler. Alors d'abord, je vais m'excuser parce que j'ai une voix... Je ne sais pas d'où elle sort, de ma gorge certainement, mais c'est la gorge que je ne sais pas d'où elle vient, mais c'est comme ça, donc j'espère qu'elle ne va pas me lâcher pendant l'émission. Je vais vous parler d'un livre qui est sorti en octobre, chez Liana Levy. C'est un livre de Yann, alors je ne sais pas comment on dit, I-A-I-N, Yann Levison. Et c'est un livre qui s'appelle « Ils savent tout de vous ». C'est un livre traduit par Fanchita Gonzalez Battle. Et le titre original, je le précise parce que finalement, le titre français est mieux. Ça s'appelle « Mind Reader », hein, donc le lecteur de pensée. Et « Ils savent tout de vous », vu le thème, c'est beaucoup mieux. Ça faisait longtemps qu'on attendait des nouvelles de cet auteur d'origine écossaise. Alors vous peut-être pas, mais moi beaucoup, parce que j'aime beaucoup son humour corrosif, décalé, ses façons d'évoquer des sujets graves dans une histoire en général totalement délirante. Celle-ci ne lui déroge pas à la règle, quoique, c'est quand même beaucoup moins drôle, même s'il y a quand même beaucoup de dérision. Et si certains veulent y voir un roman qui flirte avec l'anticipation, moi, j'y verrais plutôt une métaphore de ce que l'on est un peu en train de vivre. Big Brother, des États qui coupent et recoupent les informations pour nous surveiller à outrance. Pas seulement pour des histoires de sécurité, n'est-ce pas ? Mais pour nous contingenter dans une espèce d'ultra-capitalisme et qui leur apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Alors, on va quand même dire quelques mots d'histoire. D'un côté, on a Snows, un flic bien banal. Et il se rend compte tout d'un coup, lors d'une banale arrestation, qu'il peut lire dans les pensées de son prochain, quel qu'il soit. C'est assez perturbant. Tout aussi perturbant, des agents très spéciaux, dirais-je, mais des agents très, très étonnants, qui sortent de Nisbouk, de prison, alors qu'il est dans le couloir de la mort. Parce qu'il a les mêmes capacités que le flic, que Snows, encore meilleur apparemment, puisque lui, il arrive même à lire dans les pensées des animaux, c'est dire. Et que pour mener des tractations avec un chef d'État étranger, c'est quand même une aubaine incroyable. Bien sûr, il vaudrait mieux que cet homme qui est condamné à un meurtre, qui est condamné donc à la peine de meurtre, qui est condamné à la peine de mort, disparaisse après. D'abord, il est condamné à la peine de mort, quand même, on rigole pas aux États-Unis. Et puis parce que il sait, il va savoir, donc il vaudrait mieux pas qu'il puisse en parler. Mais il va s'enfuir. Et l'agence bien mystérieuse qui recrute ces espèces de voyants met Snow à la poursuite de Denis. Et quand un télépathe rencontre un autre télépathe, les manipulateurs peuvent commencer à avoir peur. On a une double entrée, en fait, dans ce roman. Une au niveau vision de la société, l'autre, on va dire, plus dans le microcosme de l'individu. Levison analyse avec beaucoup de justesse, alors qu'il ne peut qu'imaginer, enfin, je le suppose, la vie pourrie de quelqu'un qui connaît les pensées de ses congénères. Imaginez les histoires d'amour, les relations au travail, juste invivables, hein, si on arrive à capter toutes les pensées de l'autre. C'est aussi une façon d'évoquer tous ces mensonges sociaux, petits ou grands, qui en fait tissent toutes les relations humaines. Autre entrée du roman, l'ultra-surveillance de nos dirigeants, j'en parlais déjà au début. Imaginez des hommes, comme on les appelle, des hommes augmentés, qui peuvent suivre les pensées des citoyens, ou bien de certains chefs d'État. Tiens, par exemple, au hasard, là, à la COP21. Ou dans les pensées des candidats des élections, ou des électeurs, au hasard, hein, je dis ça vraiment, vraiment par hasard. Parce que, ne nous leurrons pas, si ça se développe, et ça va se développer, ce sont les pays riches qui posséderont cette technologie. Vous l'aurez remarqué, donc j'ai parlé au présent, je devrais employer certes le futur proche, très proche, car des puces qui vont transformer nos connexions neuroniques en codes binaires, bah, c'est juste pour demain. Ce roman... Ils savent tout de nous. C'est un peu comme un lanceur d'alerte. Et ce n'est pas un hasard, je pense, c'est une interprétation personnelle, mais ce n'est pas un hasard si le télépathe, le flic, s'appelle Snows, et le psychopathe, Denis. Et si vous y allez très vite, quand ils se rencontrent, ça fait Snowden. Voilà. Donc, je rappelle le titre, Ils savent tout de vous, Yann Levison, aux éditions Liana Levy. Un peu de musique, Jacques ?
Un peu de musique qui n'a rien à voir, mais qui n'a rien à voir avec ce dont tu viens de parler, et probablement avec ce dont va parler Jean-Marc
après. Comment, tu n'as pas lu mes pensées ? Mais enfin...
Je n'ai pas lu tes pensées, non, la puce doit être désactivée. Donc, c'est un trio de jazz de la région. Le trio s'appelle BIS, B-I-S, comme les initiales des musiciens. Donc, Cédric Beck, qui est le batteur, pour le B, Eric Solaire pour le S, et le saxophoniste Raphaël Imbert. Le morceau qu'ils vont nous jouer ce soir est une reprise d'un super beau titre de Tom Waits qui s'appelle Tom Trauber Blues et qui est quand même interprété vraiment à leur façon. Trio BIS Tom Trauber Blues. Donc, c'était le trio BIS.
Et nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Laherrère. Jean-Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Mais ça va bien.
Alors, de beaux livres dans votre panier ?
Oui. Alors, on va changer un peu pour cette dernière, ma dernière chronique de l'année. C'est pas vraiment en polar, c'est plutôt un roman d'aventure, mais qui est aussi roman policier un petit peu. Et c'est un roman qui a une autre particularité, c'est qu'il a été écrit à quatre mains.
Alors, non, c'est pas possible. Faut arrêter ça, c'est jamais écrit à quatre mains.
À deux claviers, disons.
Ah ouais, mais c'est vrai, avec les claviers, on se sert des quatre mains.
Quatre mains et deux claviers, si.
Eh ouais, pardon. Voilà.
Et donc, c'est écrit par un Français et un Mexicain. Le Français, c'est Sébastien Routès. Le Mexicain, qui est malheureusement décédé et qui n'a pas vu la publication de son livre, c'était Juan Hernández Luna. Ça s'appelle Monarque et c'est paru chez Albert Michel. Donc, c'est né par, comme souvent ces choses-là, une discussion entre les deux hommes qui se connaissaient bien. Et ça commence par des échanges de lettres. Ça commence par des échanges de lettres. En 1935, il y a un illustrateur qui vit à Mexico, qui s'appelle Augusto Solis, qui écrit à une adresse où il pense que vit celle qui a été son amante et son grand amour quand elle était à Mexico, une femme d'origine allemande, Lorelai, qui est repartie. Il écrit une adresse, et sauf qu'à cette adresse-là, ça tombe sur un jeune homme qui vit avec sa mère, Jules Daumier, qui est un jeune Parisien, qui communiste, livreur de l'humanité, qui se fait traduire par quelqu'un cette lettre en espagnol qui ne comprend pas, et qui va commencer à répondre en disant tout d'abord « Excusez-moi, elle n'habite pas ici, c'est nous qui sommes son appartement ». Et bizarrement, ces deux hommes vont commencer à échanger des lettres. Ils vont échanger des lettres dans cette année 1935, et puis après, donc des années un peu agitées politiquement. Ouais. Et alors, à part le fait que Jules Daumier se prend au jeu et essaye de trouver cette mystérieuse belle femme, les deux aussi s'aperçoivent qu'ils partagent un autre intérêt commun, c'est le catch. Le catch qui démarre en France et qui s'appelle la lucha libre au Mexique. Ils sont tous les deux des grands, grands fans de catch. Et puis, voilà, les choses vont avancer et étrangement, on va rencontrer dans ces échanges de lettres une femme donc mystérieuse, des dignitaires nazis, Walt Disney sur le point de réaliser son premier long métrage Blanche-Neige, des bocaux d'escargots, enfin beaucoup de choses très étranges pendant tous ces échanges de lettres. Puis ensuite, il va y avoir la suite des aventures de tous ces personnages. Il va y avoir une deuxième partie où on va suivre une espèce d'histoire de chasse au trésor pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et tout se terminera par une troisième partie où deux jeunes gens, là encore, qui visiblement sont tous les deux des descendants de Jules Daumier et de Augusto Solis, vont s'écrire par mail, eux, plus par lettre.
Et oui, c'est un plaisir.
Et essayer de trouver quoi, ça on le verra. Donc, voilà, ça c'est pour
eux.
C'est un peu. Alors, ça fait penser, quand on dit tout ça, ça fait penser, bien sûr, à du Paco Taibo II.
Mmh, ouais.
Et c'est quand même pas très étonnant qu'on sait que Sébastien Routès est un ami de Taibo. Il a écrit une thèse.
Il a écrit
Taibo.
Sa thèse là-dessus, sur Paco, hein.
Oui. Et puis, Juan Hernández Luna était un grand ami de Paco. Et d'ailleurs, Taibo fait une apparition dans le roman. Un petit roman, il apparaît, hop, comme ça, une petite silhouette qui apparaît. Et donc,
petite silhouette quand on parle de Taibo.
C'est vrai. Une silhouette imposante, alors, on va
voilà.
dire.
Voilà. Toute ronde.
Voilà. Alors après, attention, parce qu'une référence comme ça, ça peut être une arme à double tranchant. Hein, une arme à double tranchant, on a vite fait de se couper avec. Mais non, les deux auteurs, ils savent très bien faire. Ils manient la référence avec beaucoup, beaucoup d'élégance et d'habileté. Et elle est jamais écrasante. Et il va y avoir des échanges, voilà, c'est très très. Alors, c'est rocambolesque, c'est. Il se passe tout le temps des choses, il y a des liens entre des faits et des personnages complètement inattendus. Sachez qu'on va parler de Shrek même à un moment, quand même. Voilà, qu'on a une partie où ça ressemble à du Indiana Jones un peu, avec les vilains nazis et puis une recherche, une chasse au trésor. Et ça finit sur. cette période qui se passe maintenant avec les deux descendants, c'est un peu plus grave. On fait un retour sur des blessures encore visibles de l'histoire du XXe siècle. Alors tout ça, ça pourrait être complètement pas tenu. C'est pas du tout le cas. C'est cohérent, c'est virtuose, c'est très jouissif. Et ça réussit quand même ce mélange qui est très Paco Taibo, là aussi, d'être à la fois un hommage à la culture populaire, dont le catch, et puis un ouvrage quand même très érudit, quand on y regarde de près.
Oui, en plus, c'est toujours pareil, mélangé avec cette maestria dont vous parlez, les personnages fictifs avec les personnages réels, c'est toujours... Il faut en savoir beaucoup, quoi.
Il faut en savoir beaucoup, il faut arriver à ne pas être lourd, il faut arriver à faire passer de l'érudition sans donner l'impression de donner un cours d'histoire. C'est compliqué, ils y arrivent très très bien. Alors Sébastien Routès a malheureusement dû terminer le travail tout seul puisque Hernández Luna est mort en 2010. Mais finalement, cette publication qui date de, je crois, de septembre de cette année, bah, c'était une magnifique façon d'honorer sa mémoire. De cet auteur qui est un peu méconnu, malheureusement.
Ouais.
Et vous savez si Sébastien Routès a écrit ses parties en français ou en espagnol directement ?
Il n'y a aucune mention de la traduction.
Oui, j'allais demander, oui, effectivement.
Mais je pense qu'ils ont dû s'écrire en... Enfin, je suis certain que Sébastien Routès parle espagnol. Je ne sais pas si Juan Hernández Luna lit le français ou écrivait en français.
Mais Sébastien Routès est professeur d'espagnol, donc on peut penser effectivement qu'il écrit couramment l'espagnol.
Oui.
Donc je pense que... Mais c'est et il n'y a pas marqué de traducteur sur parce que nous on n'a pas la couverture du livre là donc
non j'ai cherché justement pour voir et il n'y a pas écrit traduit de l'espagnol par alors il y a toute une introduction de Sébastien Routès où il explique le processus une fois surtout que Juan Hernández est décédé comment il a terminé comment il a quand même repris certaines choses qui n'étaient pas tout à fait terminées mais il n'est pas fait mention de traduction donc je pense que c'est lui de toute façon qui a tout traduit, mais ce n'est pas écrit dans le livre. Ou alors, j'ai pas su le trouver, peut-être.
Et alors, il explique un petit peu aussi si se sont attribués chacun un personnage. Ça paraît un peu évident, vu les et que donc ils ont commencé en fait par un échange de lettres.
Par un échange de lettres.
Voilà.
Mais après, il y a des parties qui ne sont pas dans le genre épistolaire. Il y a toute la partie du milieu, c'est un roman d'aventure, la Indiana Jones un peu. Donc là, il dit que ils écrivaient, ils se renvoyaient, ils se renvoyaient, puis lui a terminé le travail après. En essayant de garder un maximum de ce qu'il avait de son ami.
C'est une très bonne idée parce que c'est vrai que, comme vous dites, de toute façon, il n'a jamais en plus été dans des collections dont on parle souvent.
Oui.
Et sa disparition a passé inaperçue et c'est bien dommage. Donc c'est bien de pouvoir relire ces mots.
Voilà, donc ça s'appelle Monarque. Alors c'est pas du tout les monarques, les rois, hein. c'est une sorte de papillon.
Les papillons.
Qui arrive visiblement à toujours la même période de l'année dans une certaine région du Mexique où ils reviennent tous vers leur lieu de naissance. Et il va y avoir comme ça des personnages qui vont voyager. Ces personnages qui au début ne font que s'écrire, il arrive toujours un petit moment où ils arrivent à voyager, à se voir quand même. Aussi.
Et c'est dans une collection particulière de Albin Michel ou non?
Non, c'est Albin Michel, en blanche. Voilà, pas de collection particulière.
Donc, moi, je vais citer le nom en français, mais comme vous êtes hispanisant, je vais vous laisser parler, citer le deuxième auteur. Donc, le français, c'est Sébastien Routès, et le mexicain.
C'est Juan Hernández Luna.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci
Jean-Marc, on se cause bientôt d'un autre roman, roman noir, roman d'aventure. Voilà, d'un autre bon roman de toute façon.
Voilà, et à l'année prochaine, donc.
Passez une bonne fête, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.